Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez la toute première émission de TerraZen Psychologie animée donc par Anne-Catherine Sabas. Alors Anne-Catherine, est-ce que tu m'entends ?
Oui, tout à fait, bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc pour les personnes qui commencent un peu à se connecter, hein, donc d'autres viendront par la suite. Donc c'est la toute première émission ce soir donc de la nouvelle émission TerraZen Psychologie, j'allais dire santé, c'est pas celle-là, c'était l'autre de la semaine dernière. Donc dedans, vous retrouverez donc plusieurs thèmes qui seront liés donc à la psychologie avec des outils, etc. Mais je vais plus laisser donc Anne-Catherine qui va donc être l'animatrice de cette émission. Je vais la laisser se présenter et un peu expliquer l'objectif un petit peu de ces émissions et ce qu'on pourra trouver dans comme contenu en fait.
Alors, quelle tâche ardue tu me confies là? Je commence par me présenter. Donc, je suis Anne-Catherine Sabas. Je pratique la psychothérapie depuis maintenant 18 ans à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, où je suis d'ailleurs entourée d'autres thérapeutes très compétents que je vous recommande d'aller voir sur mon site, entre parenthèses. J'ai plusieurs formations à mon actif et plusieurs outils. Mais surtout, je suis psychothérapeute et écrivain. Une vingtaine de livres, 19 je crois, publiés à ce jour, dont des livres pratiques. Nous avons parlé déjà d'un de ces livres dans une précédente émission qui ne faisait pas encore partie de la rubrique psychologie. Et ce soir, nous allons parler en fait d'un thème qui concerne tout le monde, qui est le thème du pardon. Alors, j'ai écrit un livre sur ce thème, donc, qui s'appelle « Libérez-vous par le pardon » aux éditions Bussière. Ce livre a le mérite de ne pas être cher du tout, il coûte 8 euros et il donne des conseils pratiques bien sûr, mais aussi il propose une réflexion sur ce que le pardon est, ce qu'il n'est pas, ce que la religion nous enseigne à ce niveau-là et puis ce que nous, dans nos cabinets de psychothérapeutes, nous découvrons par rapport en fait à ce processus de pardon et à la nécessité avant tout d'aller se pardonner à soi-même beaucoup de choses. Et c'est, je pense, beaucoup de ça dont je vais vous parler ce soir.
D'accord. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet de ce soir, de cette émission, donc qu'est-ce qu'est justement le pardon ?
Alors, le pardon, c'est évidemment quelque chose qui dépend de la sensibilité de chacun, que chacun va vivre d'une manière différente. Mais la plupart des religions et des philosophies sont d'accord pour dire que le pardon, c'est l'acte de ne plus tenir rigueur à quelqu'un, pour une offense qu'il nous aurait faite. Alors, on a des opinions qui se recoupent dans la plupart des religions. J'ai d'ailleurs comparé un petit peu ce que les livres sacrés enseignaient sur le pardon. On retrouve à peu près, bien sûr, le même genre de choses. Pardonner une offense, ne plus tenir rigueur, être prêt à se réconcilier avec quelqu'un qui nous a fait du mal, un adversaire, etc. Et puis, on s'aperçoit donc dans la pratique que le pardon a souvent été mal compris. Il a été compris comme une obligation morale, une obligation souvent religieuse, de faire comme si quelque chose était digéré, était pardonné. Certains d'ailleurs disent « je pardonne, mais je n'oublie pas », mais qu'en fait, dans la pratique et dans la réalité de notre vécu, ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà.
D'accord. Alors justement par rapport, parce qu'on a donc reçu Jean Gracier et donc sa femme sur le Ho'oponopono. Alors quel rapport avec le Ho'oponopono?
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du Ho'oponopono, je connais les grandes lignes, hein, désolé, pardon, je t'aime, merci. Et je sais aussi, parce que je connais des gens qui pratiquent beaucoup plus que moi cette technique et qui amènent des résultats merveilleux. Le but d'ailleurs de toutes ces techniques qui sont à mi-chemin entre la thérapie, le développement personnel, la spiritualité, c'est d'arriver à faire la paix avec soi, la paix avec sa vie et donc la paix avec l'autre. Parce que, à vrai dire, les trois sont intimement liés toujours. Alors, quel rapport il peut y avoir? Ho'oponopono nous dit demandez pardon à l'autre et puis accordez-lui votre pardon. C'est-à-dire accepter cette relation, ce jeu, entre guillemets, mais un jeu très sain, pas un jeu malsain, évidemment. Accepter ce jeu, cet échange, ce contrat qui va être que chacun, de son côté, va effacer l'ardoise. Hein, quand entre deux personnes, il y a eu du mal de fait, des choses blessantes qui se sont passées. J'en profite pour préciser que la plupart du temps, sauf à être pervers, sadique ou complètement fou, le mal que nous affligeons à l'autre est en général complètement involontaire. Hein. C'est pour ça que le pardon est important, parce que quand on fait du mal à l'autre sans le vouloir, c'est dramatique que l'autre nous en tienne rigueur, parce que la plupart du temps, on n'a pas voulu le blesser. Donc, Ho'oponopono, c'est une manière de dire, on efface l'ardoise des deux côtés et on se concentre sur le positif. Le positif, c'est que la vie est belle et qu'on est capable de ressentir et d'éprouver de la gratitude, hein, merci, pour toutes les expériences que la vie nous amène, et parfois même les expériences douloureuses, parce qu'elles nous font progresser, elles nous rendent plus humains d'une certaine façon. Et puis je t'aime parce que, au bout du compte, ce qui nous rassemble, même quand on s'est fait mal, c'est ça, c'est ces choses qui sont au-delà des blessures, à savoir l'amour. Et dans le pardon, évidemment, on retrouve cette démarche. On va vouloir pardonner à quelqu'un ou on va vouloir que l'autre nous pardonne parce qu'on a envie de maintenir le lien. Donc ça, c'est une première chose. On peut aussi, on pourra revenir dessus dans l'émission plus tard, on peut aussi pardonner sans maintenir le lien.
Oui, parce que de toute façon, même s'il n'y a plus contact avec la personne, de ce que j'en sais, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que de toute façon, ça se ressent d'un point de vue, on va dire, ésotérique ou autre, hein,
Absolument.
voilà.
On voit d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la magie du pardon. Alors, je vous parlerai après de quelques auteurs et puis de quelque chose de particulier, mais je garde ça pour tout à l'heure. En fait, on se rend compte que quand on fait un travail dans son coin pour arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, ça va libérer la personne. Hein, parce que même si on n'est pas forcément hypersensible ou médium ou connecté à des choses à distance, quand on sait avoir fait du mal à quelqu'un, en général, on n'a pas tout à fait la conscience tranquille ou on vit difficilement avec les souvenirs de conflits ou de choses qui n'ont pas été réglées. Hein. Et en effet, quand quelqu'un, même si c'est à l'autre bout de la planète, se met à être en paix avec nous, évidemment, la plupart du temps, on va le ressentir. Donc ça a un pouvoir extrêmement, extrêmement fort, en fait.
D'accord. Et justement aussi dans le pardon, parce qu'on dit souvent bon à pardonner à l'autre personne, on arrive un petit peu plus facilement, mais le plus dur c'est de se pardonner nous-mêmes.
Alors oui, on a en général tendance à traiter les autres comme on se traite soi-même. Hein, ça, c'est le principe de la projection, ce qu'on appelle la projection en psychologie, c'est-à-dire qu'on va projeter sur l'autre ce qu'on a du mal à accepter en soi, par exemple. Et on s'aperçoit que les gens qui sont, par exemple, très exigeants avec eux-mêmes sont très exigeants avec les autres. À l'inverse, ceux qui sont conscients et à peu près en paix avec le fait d'être imparfait, donc faillible, peuvent plus facilement accepter que l'autre le soit aussi. Hein. Et à l'inverse, ceux qui n'acceptent pas du tout les failles de l'autre ont en général du mal à accepter les leurs. Donc il y a un lien direct avec ça. C'est pour ça que se pardonner soi-même, c'est important, parce que la manière dont nous allons nous traiter va influencer la manière dont nous allons traiter les autres. Et se pardonner soi-même, c'est aussi accepter. Puisqu'on parle du pardon, accepter qu'on puisse avoir besoin de pardonner à l'autre. Je m'explique. Le pardon sous-entend qu'il y a eu un dommage. Hein. On ne parle pas de pardon si l'autre nous fait du bien.
Oui,
Hein,
oui.
d'accord, Cédric. Si on parle on évoque l'idée du pardon, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a eu mal. Il y a quelque chose qui a été fait qui a été dommageable pour l'un ou pour l'autre. Et souvent, on s'aperçoit que les gens qui, par exemple, ont été victimes, j'ai parlé de ça dans mon livre sur les manipulateurs, les gens qui ont été victimes ont du mal à se pardonner d'avoir été victimes parce que l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes a été abîmée. Parfois aussi parce qu'ils se sont mis à éprouver des sentiments désagréables et qu'ils ne pensaient pas être capables de ça. Donc, il faut que chacun arrive aussi à aller faire la paix avec son histoire. Se pardonner soi-même, c'est se pardonner d'avoir pu souffrir. Alors, c'est se pardonner d'avoir pu faire souffrir, mais aussi d'avoir pu souffrir. C'est se pardonner, finalement, de n'être qu'humain, d'être faillible, de pouvoir faire des erreurs, et puis, même si on les a comprises, de savoir qu'on en fera d'autres pour pouvoir être en paix avec soi-même au jour le jour. Sinon, d'une part, la vie est un enfer pour soi-même dans la relation qu'on a à soi, et puis, elle devient du coup compliquée pour les autres. Combien de gens n'arrivent pas à accepter de l'amour des autres, par exemple, parce qu'ils ont du mal à s'aimer eux-mêmes?
Oui, tout à fait.
Et dans notre travail de psychothérapeute, nous voyons que ça commence toujours à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que les gens vont nous parler de leurs conflits, de leurs difficultés avec leur père, avec leur mère, avec leur conjoint, avec leurs enfants, etc., avec leur patron, avec leurs amis. Mais derrière, quelque part, il y a toujours la question de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Hein, parce que si je suis en paix avec moi-même, je pourrais accepter beaucoup plus facilement que l'autre ait envie de me faire la guerre, je serais moins touchée, je rentrerais pas dans son jeu.
Oui, quelque part, c'est une méthode aussi de libération de justement de l'émission qu'on avait parlé des manipulateurs narcissiques.
Tout à fait. Alors, puisque vous parlez de ça, il faut savoir aussi que le pardon ne sous-entend pas la faiblesse, ne sous-entend pas de tout accepter. Je crois que c'est Desmond Tutu qui a créé, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, j'en parle dans mon livre, mais ça fait longtemps que je l'ai écrit, donc je ne le connais pas par cœur, mon livre sur le pardon. Je crois que c'est Desmond Tutu qui a beaucoup travaillé sur la question de la réconciliation et de la justice. Parce que on sait qu'une des conditions sine qua non pour un vrai pardon, et là, je ne parle pas du pardon qu'on va dire comme ça du bout des lèvres, oui, je te pardonne, mais en fait, je te le dis pas, mais je te déteste. Parce que on a tous vécu ça, hein. On croit qu'on a pardonné, puis, ou que l'autre nous a pardonné, puis en fait, la guerre continue. Ça ne veut pas dire grand-chose. Un vrai pardon, c'est un pardon où vraiment on est capable de ne plus penser trop en mal de la personne, où on peut tirer un trait sur une histoire douloureuse et ne plus la ressasser. Et donc, pour ne plus la ressasser, il faut que la douleur soit arrêtée. Et ça, c'est à mon avis un des points clés pour vraiment pardonner une situation ou à une personne. Hein, il faut avoir réussi à se protéger de ce qui nous fait du mal. Hein, quelqu'un qui vit au quotidien avec quelqu'un qui le ou la maltraite, ne peut pas pardonner puisque la blessure revient et revient et revient et revient. C'est-à-dire que il y a cette question de justice qui est toujours derrière le pardon, à mon avis, qui est que pour assainir une relation, puisque finalement pardonner c'est assainir une relation, assainir, je dirais, la relation qu'on a avec la personne, mais surtout la relation qu'on a à l'intérieur de nous avec la personne. Parce que quand on pense à quelqu'un qui nous a fait du mal, même si la personne, on ne la voit plus jamais, on a avec cette personne une relation à l'intérieur de nous qui peut nous pourrir la vie. Hein, moi, j'entends des gens qui, 25 ans après un divorce, continuent à détester leur ex-femme ou leur ex-mari. C'est dommage, ils auraient pu profiter de ces 25 ans pour vivre, vous voyez, ils ne l'ont pas fait.
Ouais.
Bon, je m'égare un petit peu. Mais donc, le pardon, c'est faire la paix avec la relation à l'intérieur de nous, mais il faut donc organiser, prévoir les circonstances pour que cette relation soit en effet paisible. Si quelqu'un continue à vous maltraiter, vous ne pouvez pas le pardonner. Il faut d'abord savoir se protéger.
Mais quelque part, il faut commencer à couper la source déjà.
Exactement. Et ça, c'est une question importante parce que, alors j'en parle aussi dans mon livre, j'ai eu à une époque une de mes patientes qui parlait cette langue et qui avait étudié la Bible sous toutes ses coutures et qui me disait, vous savez, alors il y a peut-être des spécialistes qui nous écoutent, et j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais elle me disait, vous savez, on parle dans les évangiles, quand quelqu'un te fait mal, montre ton autre joue, tend ton autre joue. Mais en fait, dans la traduction originelle, ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Il est dit, montre ton autre face. Voilà. Donc moi, j'ai un petit peu extrapolé là-dessus dans mon livre, en disant que montrer son autre face, ça ne veut pas dire à l'autre, vas-y, fais de moi ton paillasson et ta victime et ton punching ball. Ça veut dire aussi, je vais te montrer que moi aussi, je peux me comporter différemment. C'est-à-dire mettre une limite à l'autre. Savoir se protéger.
Et quelque part se rebeller, on va dire.
Alors ça peut être se rebeller, hein. Il y a des gens avec qui il faut se rebeller pour qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent un petit peu de dépasser les limites. Il y a des gens à qui il faut expliquer les choses calmement, après ça dépend de chacun. Mais en tout cas, ça veut dire ne pas subir, hein. Pardonner n'est pas synonyme de subir et n'est pas non plus synonyme de tout accepter et en particulier d'accepter de continuer à souffrir parce que ça ne rend pas service à la personne qui vous fait souffrir non plus.
Oui, bah, quelque part, souvent on dit des fois pardonner, mais ne pas oublier.
Voilà, parce que quand quelqu'un, un chien qui vous a mordu une fois, vous savez qu'il peut recommencer. Hein. Donc, il faut se méfier. On ne regarde pas la personne de la même façon après.
Oui,
Il faut
ça, j'ai.
rester vigilant. Et je pense que c'est aussi à ce prix-là que les relations peuvent être saines. Hein. On est conscient, on est adulte, on sait que chacun est humain, peut parfois dépasser les limites, volontairement ou involontairement la plupart du temps. Et justement, pour ne pas avoir besoin de pardonner 50 fois par jour, c'est important que chacun apprenne à se comporter de la manière la plus bienveillante possible.
Oui, après tout dépend aussi, je pense, du degré de la blessure aussi.
Absolument, il y a des blessures, c'est une question d'ailleurs qui se pose souvent. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Moi, je pense que non. Hein, moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas que je puisse tout pardonner moi-même. Il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'acharner à aller détruire quelqu'un. Il y a des gens qui font ça quand ils pardonnent pas, ils veulent se venger.
Et la vengeance, oui.
C'est encore autre chose. On peut ne pas pardonner parce que tout simplement on est très vigilant. On sait que quelqu'un a déjà montré de quoi il était capable en pire. Donc on va rester vraiment sur ses gardes par rapport à telle personne. Et on n'est pas non plus obligé de renouer avec toutes les personnes à qui on a pardonné quelque chose. Et enfin souvent, il arrive que le pardon soit un acte qu'on fait pour soi-même avant. Enfin, je pense que si on décide de pardonner à quelqu'un ou à quelque chose, parce que parfois il faut aussi pardonner à la vie certaines choses, on le fait pour soi avant tout. On le fait parce que vivre dans la haine, c'est insupportable. Vivre dans la haine, c'est destructeur. C'est pas bon pour la santé.
Oui, ça c'est clair. Et puis de toute façon, c'est pas non plus, on n'est pas sur des bonnes énergies. Puis pendant ce temps-là, on rate d'autres choses qui sont
Voilà.
mille fois mieux, quoi.
C'est ça. Si on est en permanence tourné vers le passé, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, le mal qu'on nous a fait, on ne peut pas se concentrer sur la vie qui est là et qui se fiche bien, à vrai dire, de nos petits malheurs.
Oui, bah ça, de toute façon, c'est vrai que je crois que c'était Lao Tzu qui avait parlé justement. Il a dit, si vous êtes dépressif, c'est que vous vivez dans le passé. Si vous êtes impatient, c'est que vous vivez dans le futur. Et si vous êtes heureux, bah, c'est que vous êtes dans le présent, tout simplement.
Oui, ça ressemble souvent à ça, en effet.
Donc c'est vrai, quelque part, se venger, c'est pas non plus la solution, même si des fois on aurait bien envie. Mais quelque part, de toute façon, il faut se dire que la roue tourne. Et qu'un jour ou l'autre, de toute façon, l'univers rééquilibre toujours les choses.
Oui, et je crois que quand on a comment dire, la conscience suffisante pour savoir se protéger quand il le faut, et puis au contraire réouvrir notre porte quand il le faut, on permet aussi à certaines situations de plus perdurer. Hein, quelqu'un qui fait du mal à tous ceux qu'il croise, à un moment donné, va trouver sur sa route de toute façon des obstacles, tôt ou tard.
Oui, bah, de toute façon, oui, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu l'équilibre qui se refait. Donc, surtout, bah, comme je disais, hein, la solution, hein, parce que forcément, on l'a tous fait, ça, de vouloir se venger, et quelque part, c'est pire après. Donc, quelque part, vaut mieux, à la rigueur, lâcher prise. Et comment dire, c'est pas oublier, c'est, on va dire, passer à autre chose. Et après, bon, bah.
Gandhi disait à ce sujet, œil pour œil, dent pour dent, et le monde est aveugle. Hein, si chaque fois que quelqu'un vous enlève un œil, vous lui enlevez un autre, Au bout d'un moment, tout le monde va devenir aveugle.
Voilà. Comme quoi, la vengeance ne sert pas à grand-chose. Sur le pardon, alors, qu'est-ce qui est le, on va dire par exemple, parce que vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus difficile à pardonner comme faute, on va dire?
Je crois que c'est difficile de répondre à cette question, mais il y a je dirais des thèmes de souffrance qui sont universels. Si quelqu'un tue votre enfant, ça va être compliqué de lui pardonner. Je crois que ce qui est le plus difficile à pardonner, c'est tout ce qui est irrémédiable. Une parole prononcée peut faire beaucoup de mal, mais elle peut être reprise. L'autre peut vous dire « je suis désolé », etc. Mais quand quelqu'un est mort, ou quand quelqu'un a eu un accident, ou quelqu'un s'est fait agresser, violer, et qu'il est traumatisé à vie, ça laisse des traces. Et je crois que plus les conséquences d'un acte sont importantes, plus le pardon est difficile, parce que il faut un sacré effort pour arriver à pardonner quelque chose dont vous allez souffrir toute votre vie.
Et qui peut souvent enfin, très souvent finir en dépression, je pense, par la suite.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, justement, dans le pardon, parce que là, on est rentré, on a un petit peu expliqué ce que c'était, comment, justement, arriver, on va dire, entre guillemets, les procédures pour arriver vers le pardon? Est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou est-ce qu'il faut forcément l'aide de quelqu'un?
Alors, il y a des gens qui ont cette chance magnifique d'être à un moment donné de leur vie touchés par la grâce divine. Alors, moi, j'appelle ça comme ça. On peut l'appeler autrement, bien sûr, mais ils ont une espèce de révélation. Tout à coup, ils sont touchés par l'idée de la bonté, de la vie, du pardon, et ils se rendent compte que la vie est plus importante que nos souffrances. La vie est plus forte et plus vaste et plus belle et plus mystérieuse et plus grande que nos petites souffrances à l'échelle humaine, même si parfois elles nous semblent terribles, et ils vont décider de privilégier ça. J'ai rencontré des gens qui avaient vécu ce genre d'expérience, c'est magnifique, et quand ils les racontent, on voit bien qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans. Et c'est vrai que si tout le monde pouvait vivre ça, la Terre s'en porterait mieux. Maintenant, le pardon, je dirais, chez monsieur et madame tout le monde, ça passe, à mon avis, avant tout par des prises de conscience. J'insiste souvent sur ce terme, hein, la conscience, la prise de conscience. Parce que déjà, on sait que c'est la conscience qui guérit et qui permet d'avoir un rapport différent au monde. Mais parce qu'avant de pardonner quelque chose, il faut en avoir pris conscience. Nous recevons dans nos cabinets beaucoup de gens qui sont empêtrés dans des histoires pas possibles, ou un rapport avec eux-mêmes qui est extrêmement dépressif ou compliqué ou tyrannique ou vraiment douloureux, lourd, difficile, et puis qui ne sont absolument pas conscients que quelque chose ou quelqu'un leur a fait beaucoup de mal dans leur vie et qui s'obstinent à vouloir se faire croire que non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, qui sont intacts en fait. Ils veulent se cacher eux-mêmes la vérité, à savoir que un événement de leur vie, souvent par l'intermédiaire d'une personne, les a vraiment abîmés. Alors abîmé ne veut pas dire irrécupérable, hein, parce que heureusement, beaucoup de choses en nous abîmées, pour ne pas tout dire d'ailleurs, pour ne pas dire tout, peuvent se réparer, heureusement. On sait que nos neurones sont capables de choses merveilleuses. Mais voilà, donc pour commencer ce processus de pardon, il faut d'abord prendre conscience. Hein, prendre conscience qu'en effet, telle ou telle histoire de notre vie a laissé des traces, et arriver aussi à se reconnecter avec ces traces-là, à savoir la souffrance. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas faire. C'est assez humain, d'ailleurs. On préfère se sentir fort et faire comme si tout allait bien, en accusant essentiellement les autres de nos malheurs, tant qu'à faire, ou la vie, ou le destin, ou je ne sais pas quoi, plutôt que de s'apercevoir qu'on porte en soi une grosse, grosse blessure, et puis aller ressentir cette blessure. C'est la première étape. Elle est, à mon avis, incontournable. Parce que sinon, il n'y a même pas de pardon possible, et si on n'a pas senti quel était le dommage que la personne en question avait causé. Ça ne veut rien dire quand on dit à l'autre, je te pardonne. De quoi on lui pardonne, si on ne sait pas ce qu'il nous a fait? Et on passe beaucoup de temps dans nos psychothérapies à aller comprendre que tel agissement, telle parole, telle action de l'un, de l'autre, papa, maman, nos premiers amoureux, etc., ont, quelles traces ces choses ont laissées. Et puis après, bien sûr, on peut décider de laisser partir, parce que pardonner, c'est aussi laisser partir, c'est laisser partir la trace, c'est aller récupérer une partie de nous qui est bien, qui existe bien avant ces blessures, hein, qui existe en deçà de ces blessures, c'est-à-dire retrouver notre intégrité.
Oui, quelque part, c'est un peu lâcher prise, hein, ce que je disais tout à l'heure sur
Tout à
ça.
fait, tout à fait. Et en général, ce qu'on a vraiment intégré, compris, et les choses même douloureuses de notre vie avec lesquelles on s'est réconcilié, quand je dis réconcilié, c'est accepter qu'elles ont eu lieu. Parce que pour pardonner, c'est ça avant tout qu'il faut arriver à faire, c'est de se dire, mais oui, ça a existé. Il s'est passé ça dans ma vie, ça a été ça, mon histoire, c'est ça. L'autre m'a fait ça, l'autre m'a dit ça, j'ai vécu ça. Hein, j'ai vécu ça, c'est un fait. Je pourrais faire tout ce que je veux pour le nier ou pour ne pas le voir. Voilà ce qui s'est passé. J'ai été abandonnée, trahie, trompée, abusée, etc. Oui, c'est ma réalité. Et une fois qu'on peut accepter d'aller sentir ça, ben on va retrouver un regard beaucoup plus juste sur la vie. Parce que le problème de vouloir se cacher à soi-même ses blessures, c'est que du coup, à force de se cacher de soi-même, on finit par ne jamais se trouver et être à côté de ces pompes, si je peux me permettre, toute sa vie.
Oui.
Alors que notre histoire, pour pouvoir l'intégrer, la digérer, il faut d'abord l'avoir rencontrée. D'abord avoir pu se dire, mais oui, mais c'est mon histoire, c'est moi. Ces souffrances, ces choses difficiles que j'aurais tellement aimé éviter, c'est mon histoire. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que c'est aussi ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et
Oui,
c'est
quelque
ça qui aujourd'hui peut me permettre de décider consciemment, parce que j'ai rencontré courageusement cette chose, de dire, mais j'en ai plus besoin maintenant.
Oui, quelque part, c'est ne pas être dans le déni des
Tout
choses.
à fait, c'est exactement ça.
Parce que c'est l'histoire de la cocotte minute. Enfin, oui, c'est ça, un peu, on va dire
Oui, tout à fait.
qu'on chauffe, et au bout d'un moment, bah, ça finit par exploser, quoi.
Exactement. Et puis, ça nous est arrivé à tous de toute façon, hein. Mais il y a des gens qui vivent ça particulièrement, qui ont tellement refoulé toute colère, tous les sentiments désagréables et négatifs, en se faisant croire qu'ils sont purs et sains et incapables de penser négative, qu'en fait, ils sont coupés d'eux-mêmes, et donc coupés de leur énergie vitale aussi, c'est-à-dire en fait complètement dépressifs, ou alors, à l'inverse, cette colère qu'ils n'entendent pas va sortir par accès, ils n'en sont absolument pas conscients, donc c'est l'enfer pour l'entourage.
D'accord. Et justement, quand cette colère, elle sort et tout, ça peut être des fois quelque chose de très destructeur qui peut dépasser des fois des actes, on va dire, irrémédiables, quoi.
Absolument, il y a des gens qui ont posé des actes extrêmes parce que la personne qu'ils visaient, mais sans en être conscient, ressemblait à quelqu'un qui leur avait fait mal.
D'accord.
Et
Et
donc, excusez-moi, ils ont, excuse-moi,
oui, le.
ils ont fait payer quelqu'un d'autre. Et la démarche du pardon, c'est aussi de rendre à César ce qui est à César, de rendre à l'intéressé la colère qu'on lui doit. Alors, ça ne veut pas dire aller lui casser la gueule parce qu'on s'aperçoit qu'il nous a fait mal il y a 20 ans. C'est pas du tout de ça dont je parle. C'est simplement prendre conscience que si on a une souffrance aujourd'hui et une colère envers, je sais pas moi, telle personne, telle race, hein, je vais pas me lancer dans ce débat-là, mais il y a combien de crimes ethniques, religieux, pour des histoires qui concernent nos arrière-grands-parents. Donc il s'agit de prendre conscience, mais envers qui on est en colère? Qui est-ce qui nous a fait mal? À qui on n'a pas pardonné? Parce que si on ne prend pas conscience de ça, c'est un autre qui va payer à la place. Et ça, c'est pas juste.
Et puis après, c'est nous qui récupérons on va dire, les pots cassés qu'on aura causés.
Tout à fait.
Donc quelque part, c'est une chaîne sans fin si on fait
Et
pas.
donc, cette démarche de pardon, qui est, comme je disais tout à l'heure, une démarche de prise de conscience, et donc après, bien sûr, de guérison, je n'ai pas encore beaucoup développé ça, mais c'est bien sûr une phase très importante, et c'est à ça qu'on travaille dans nos cabinets. Une fois qu'on a compris la blessure, et bien on va prendre le temps de la guérir. Parce qu'une fois qu'elle est guérie, la question de la haine et du pardon ne se pose même plus. On n'est plus concerné. On n'est plus touché de la même façon.
D'accord. Et justement, par rapport souvent des fois qu'on va dire le syndrome de Stockholm, on va dire les personnes qui sont dans ce syndrome-là, quelque part, on va dire, ils pardonnent à leur bourreau de ce qu'ils ont fait vivre et on va dire ils basculent de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver souvent et dans quel cas ça peut arriver justement de passer dans cet extrême-là en fait?
Alors, le syndrome de Stockholm, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est donc la situation où quelqu'un va tomber en gros amoureux de son ravisseur ou de son bourreau, hein, ou amoureux ou en tout cas se ranger de son côté. Alors, c'est des choses qu'on voit dans des prises d'otages, par exemple, ou des. Il y a eu malheureusement des faits divers effroyables de femmes qui avaient été kidnappées pendant des dizaines d'années et qui ne parlaient qu'à celui qui venait les violer régulièrement, etc., etc. Alors là, c'est très complexe parce que la personne qui a une relation avec quelqu'un qui va lui faire du mal à un niveau aussi important, la plupart du temps, elle est, enfin même pas la plupart du temps, elle est toujours d'une façon ou d'une autre sous son emprise. Que ce soit une emprise psychologique, il y a toujours une emprise psychologique de toute façon, mais souvent, ça peut être une emprise à d'autres niveaux. Hein, il y a dans des couples, des fois, l'un des deux qui ne travaille pas et l'autre a une emprise sur lui, et bon, l'emprise peut prendre plein de formes. Et donc, dans le syndrome de Stockholm, il y a quelque chose qui est une espèce de situation en fait sans solution, parce que la personne est prisonnière. La personne est prisonnière et le seul qui peut lui permettre d'assurer sa subsistance ou, je ne sais pas, peut-être même de la nourrir, de lui donner à manger, c'est son ravisseur. Alors c'est compliqué, on ne peut pas haïr complètement quelqu'un, même s'il vous fait du mal, qui est le seul à vous donner une assiette de haricots. Hein. C'est très très complexe. Je dirais que sans aller jusqu'à parler du syndrome de Stockholm, la plupart du temps, les sentiments que nous avons envers les gens ne sont pas complètement noirs ou complètement blancs. On a souvent des sentiments très ambivalents. On peut adorer quelqu'un et puis tout à coup trouver qu'il a vraiment un défaut qui est effroyable et que ce défaut, on le déteste. Hein. On a des sentiments qui sont ambivalents par rapport aux gens. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut être amené à se demander comment cette personne que j'aime tant peut me faire autant de mal, espérons-le involontairement, et que je dois être obligée de lui pardonner alors qu'elle-même, je l'aime. Bon. Donc ça c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que la plupart du temps, quand on aime quelqu'un, on va avoir une vision de lui qui va être un petit peu faussée. Vous connaissez tous le dicton, l'amour rend aveugle. On a tendance, et tant mieux d'ailleurs, on a tendance à voir les gens qu'on aime sous leurs meilleurs jours, à être plutôt bienveillant, compréhensif avec eux, à les excuser de beaucoup de choses. Mais parfois, on les excuse de choses dont on ne devrait pas les excuser non plus. Hein. Donc, là, le pardon sera possible avec, je parlais de conscience tout à l'heure, là je dirais avec de la lucidité. Hein, moi, j'ai une histoire qu'un de mes professeurs m'avait racontée de quelqu'un qui avait été marié pendant une quinzaine d'années à une femme qui avait été violée par son grand-père. Alors, cette femme qui avait été violée par son grand-père, elle avait été un petit peu abîmée dans sa sexualité, comme on peut l'imaginer. Et donc, son mari en question, qui adorait cette femme et qui s'était un peu positionné comme protecteur, comme sauveur, il avait une compassion infinie pour cette femme parce qu'elle avait vécu vraiment un enfer, il a accepté pendant 15 ans que sa femme n'ait jamais envie de faire l'amour. Parce qu'il se disait, la pauvre, elle a été violée, c'est compliqué, je ne peux pas lui en vouloir. Hein, je ne peux pas lui en vouloir. Et puis un jour, il s'est aperçu qu'à force d'être malade, 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 il fallait peut-être qu'il aille faire une thérapie. Et il est tombé sur un thérapeute qui lui a dit, mais êtes-vous sûr que vous avez pardonné à votre femme? Puisqu'il avait donc divorcé de cette femme. Et il lui a fallu très longtemps avant d'accepter qu'il avait éprouvé tellement de compassion envers sa femme, et pour des raisons que tout le monde peut comprendre, évidemment. Que il lui avait été impossible d'éprouver de la colère et de l'énervement envers elle. Donc, il avait pris sur lui pendant 15 ans, jusqu'à se créer des ulcères à l'estomac à répétition, jusqu'au jour où il s'était décidé à se séparer d'elle. Et il lui a fallu faire tout un travail pour accepter qu'en fait, il n'avait absolument pas pardonné à cette femme. Parce il éprouvait tellement de bienveillance et tellement de compassion envers elle qu'il n'avait pas pu sentir qu'il éprouvait aussi de la colère. Mais les deux sont pas antinomiques. Hein? Donc là, son travail de pardon n'a pu se faire qu'à partir du moment où il a pu réaliser que même si il avait absolument aucune intention de faire du mal à cette femme, qui n'était plus son épouse d'ailleurs, et qu'il compatissait sincèrement, et personne n'a jamais remis ça en question, à ce qu'elle avait vécu, elle lui avait quand même infligé 15 ans de chasteté. Et que ça, pour moi, il avait un peu les boules, quoi. Excusez-moi le jeu de mots. Mais voilà, donc le pardon, ça passe par accepter que oui, il y a quelque chose qui a pu nous blesser. Et dans l'absolu, c'est pas forcément grave si on l'accepte et qu'on en guérit. Parce que la plupart du temps, nos blessures sont dues à des mémoires de choses dont il faut simplement prendre conscience. Et c'est à partir du moment où on en prend conscience qu'elles se libèrent toutes seules. Hein, c'est comme si on allait ouvrir un tiroir et qu'on laisse s'échapper une araignée. Voilà, elle est partie, c'est bon.
Oui, quelque part, la phase d'acceptation est l'une des plus importantes.
Tout à fait. Mais c'est vraiment l'acceptation de la réalité, pouvoir dire, ben oui, c'est ça, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. Parce qu'on ne peut pas fuir son corps, on ne peut pas fuir ses cellules indéfiniment. De toute façon, le corps se rappelle à nous. Hein, combien de colères refoulées qui créent des somatisations dans tous les sens.
Ah, énormément, oui, ça, de toute façon, ça c'est clair que plus on garde en nous, et justement, là, l'exemple du monsieur. Bah on le garde souvent, bah ça fait oui, justement les ulcères bah, au niveau des intestins, c'est pas pour rien, parce que c'est le second cerveau, c'est celui qui analyse toutes les, on va dire, symptomatiques en fait.
Absolument. D'ailleurs, nos organes, alors la médecine chinoise est très très calée là-dessus, nos organes sont le siège de plein de mémoires. Alors chaque organe est lié à certaines émotions, les poumons, la tristesse, le foie, la colère, la rate, l'inquiétude, etc., etc., qui parlent de ce que nous n'avons pas digéré émotionnellement.
Ça, bah justement, dans la dernière émission, je sais pas si Damien l'écoute ce soir, il en avait parlé justement par rapport au foie avec la colère et le côté d'énergétique, ça pouvait dégager. Donc, bon, après là, c'était d'un côté, on va dire, plus médecine, mais qu'il y avait une relation par rapport à ça.
Oui, moi, il m'est arrivé lors d'une séance avec quelqu'un qui faisait de la médecine énergétique, justement, de connecter que j'avais pas pardonné quelque chose à quelqu'un et de sentir des larmes qui remontaient parce que je prenais conscience que j'avais gardé une colère qui était coincée dans un organe et ça a été extrêmement libérateur.
Et oui,
C'est comme
ça.
si, parce qu'en ne pardonnant pas, c'est comme si on s'accrochait en fait aux vestiges d'une souffrance. Comme vous savez, ces commémorations pendant des millénaires où on commémore des souffrances. Mais les souffrances, à force de les commémorer, on finit par les ancrer encore plus, encore plus, encore plus. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on les renie, hein, on n'accuse pas, enfin, on n'excuse pas ceux qui les ont provoqués, ces souffrances. Mais on ne peut pas vivre qu'à travers ça. À un moment donné, il faut laisser la mémoire se laver. Enfin, le pardon, ça lave.
Ah bah ça, de toute façon, ça c'est clair, c'est ce que je disais un petit peu, c'est pardonner mais ne pas oublier.
Tout à fait.
C'est pas pareil, hein, le devoir de mémoire est différent de... Ça veut pas dire j'ai pardonné, c'est bon, c'est comme si ça avait pu exister. C'est faux, ça a existé, c'est toujours là, c'est toujours ancré, mais c'est pas le côté de faire, comme on disait, de ressasser, parce que quelque part là, on fait ce qu'on appelle la méthode Coué, et du coup, on répète, on répète, on répète, et on crée un mauvais disque à l'intérieur de nous.
Exactement. Et puis, à force de ressasser nos souffrances, on s'identifie vraiment à la place et au rôle de victime. Hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a des gens qui sont des victimes à répétition, parce qu'elles finissent par porter ça en elles.
Oui, et comme on disait, il y a des personnes qui ont eu ce. Je crois qu'on avait parlé justement dans la soirée Terrazen consacrée aux manipulateurs, que en fait, ceux qui sont victimes, au bout d'un moment, ils ont trouvé cette façon-là pour que les autres s'intéressent à eux, et que du coup, bah, s'ils ne trouvent pas quelque chose pour attirer les autres, et bah, du coup, ils n'ont plus l'impression d'exister. C'est comme
Absolument.
ceux qui sont. On va dire malade, bah des fois ils ont vu que les gens s'intéressent à eux, alors du coup ils s'inventent des maladies qui sont là, hein, qui sont bien existantes, mais ils les attirent de façon parce que s'ils n'ont pas ça, les gens ne s'intéressent pas à eux.
Voilà, c'est un petit peu leur carte de visite, hein. C'est une manière de dire, regardez comme je suis fragile, aimez-moi. C'est une façon de se protéger aussi, hein. Regardez, je suis fragile, ne me faites pas de mal. Mais à force de dire ça et de se présenter comme tel, on finit par le devenir vraiment. Et quand on est trop fragile, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie.
Oui, et surtout qu'après, c'est pas non plus une solution, parce qu'après, c'est comme ça que les gens, au bout d'un moment, finissent par se lasser et partent.
Tout à fait, aussi, absolument. Voilà. D'où l'importance, là encore, de pardonner, parce que la personne qui va ressasser ses blessures d'enfance ou d'autres choses, bah devient quelqu'un de lourd, hein. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui a un cas social, qui est lourd. Alors que il y a tellement de gens sur cette planète qui ont vécu des choses effroyables et qui ont réussi à avoir des destins magnifiques parce qu'ils ont privilégié la vie et l'espoir.
D'accord. Alors, par exemple, dans quel cas on pourrait avoir besoin d'un psychothérapeute justement pour pardonner? Est-ce que c'est quelque chose de en fonction des degrés ou ça dépend en fait de la façon que c'est ancré à l'intérieur de la personne?
Moi, c'est une question difficile là, que tu me poses, Cédric. Moi, j'ai tendance à penser, mais je suis forcément pas neutre étant psychothérapeute, moi, j'ai tendance à penser déjà que tout le monde aurait besoin d'un psychothérapeute, ne serait-ce que pour apprendre à se connaître, hein, déjà. Donc, le pardon, c'est qu'un des aspects de cette connaissance de soi. Je crois que le psychothérapeute est indispensable à un certain niveau, c'est parce que quand on porte en soi des blessures dues à des traumatismes d'enfance ou de vie, hein, la vie a beaucoup d'imagination pour nous traumatiser parfois, ces blessures sont tellement douloureuses que, comme je l'expliquais tout à l'heure, notre premier réflexe humain, et qui est un réflexe sain d'ailleurs, c'est d'essayer de les refouler, hein, d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir, parce que si on était en permanence en contact avec nos blessures, ça serait insupportable, on serait tous fous, ça ne serait pas possible. Donc, le cerveau a plein de mécanismes formidables, le refoulement, le déni, le déplacement, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais qui permettent de ne pas s'apercevoir trop souvent de névroses, de nos blessures, de nos traumatismes. Parce que c'est trop douloureux et que quand on est confronté à des douleurs intenses, il y a un risque pour l'équilibre psychique. D'ailleurs, un traumatisme, ça vient geler une partie de nous. Alors, quand il y en a plusieurs à répétition, au bout d'un moment, on est un petit peu des morts-vivants quand même, hein. Donc, être confronté à des douleurs intenses et en particulier celles qui sont passées, hein, nos histoires anciennes, c'est quelque chose qui est dangereux pour l'équilibre. C'est pour ça que dans les cabinets de psychothérapie, on voit des gens qui sont persuadés d'aller pas trop mal. Alors nous, évidemment, quand on les voit arriver, on sait bien qu'ils vont mal. On le voit tout de suite. Mais ils vont prendre le temps, petit à petit, de s'appuyer sur la relation thérapeutique, c'est-à-dire sur la confiance qu'ils ont installée dans cette relation avec leur thérapeute, pour petit à petit aller oser se connecter à eux-mêmes. Aller oser se connecter à toutes ces choses qui nécessitent un pardon, pardon à l'autre, pardon à soi, pardon à son histoire. Donc le thérapeute est important dans ce sens-là parce qu'il est un peu comme le soutien, plus que la béquille d'ailleurs, presque le tuteur qui va permettre à l'autre de plonger dans ses abîmes, de plonger dans ses mémoires, de plonger dans ses douleurs pour en ressortir lavé, libéré. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Moi, je reçois souvent des gens qui me disent oh ben, ce truc-là, j'y pense depuis super longtemps, mais c'est la première fois que je pleure. Oui, c'est la première fois qu'ils pleurent parce que pleurer tout seul dans leur coin, ça aurait été trop effroyable. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas affronter seul. On a besoin de la présence de l'autre. On a besoin de la présence du psychothérapeute qui est formé à ça, qui sait comment intervenir, où et quand et comment.
Oui, parce que comme on le rappelle, hein, en fait, la psychothérapeute ou le psychothérapeute n'ont pas les solutions, et ils n'ont pas les réponses à la question de la personne, mais ils sont là pour aider à ce que la personne trouve justement ses réponses en elle.
Tout à fait. Alors parfois, ils ont quelques réponses quand même,
Oui.
mais comme tu dis, ils sont là surtout pour servir de bras solides pour que la personne puisse aller explorer ses profondeurs. Et ils vont éventuellement aller aider l'autre à mettre la lumière. Ils vont mettre la lumière à un endroit ou à un autre en disant, tiens, va voir un petit peu par là. Là, il y a peut-être un truc qu'il faudrait explorer.
Sinon aussi, parce qu'on avait donc une émission avec Maria-Lisa Hurtado-Gracier, qui est donc praticienne aussi en PNL et EFT. Alors, au niveau de l'EFT, je sais pas si tu en as déjà entendu parler
Oui, un
ou
petit peu, absolument.
voilà. Alors, est-ce que ça peut être quelque chose de complémentaire justement au pardon?
Bah, moi, je crois que toutes les techniques qui viennent déloger les mauvaises mémoires du corps peuvent être complémentaires à toutes les psychothérapies, et puis en particulier à tout ce qui est lié à la question du pardon. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour pardonner, il faut prendre conscience, il faut aller explorer la blessure, et puis après prendre la décision, est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on s'accroche à sa blessure, qu'est-ce qu'on fait en fait. Et souvent, comme je le disais aussi tout à l'heure, il y a dans notre corps pardon, certaines mémoires qui sont enkystées, qui sont vraiment enkystées, et qu'il va falloir aller déloger par une technique corporelle. Moi, j'ai vu des patients qui ne réussissaient pas. Le cas le plus frappant, c'est un monsieur qui avait vraiment eu une enfance horrible. Il dormait dans le garage. Sa mère lui disait, de toute façon, toi, t'es le fils d'un con. Enfin bref, c'était vraiment terrible. Et ce monsieur comprenait parfaitement avec sa tête tous les traumatismes dont il était porteur, mais il était incapable de se connecter à ses émotions. Et il somatisait des choses graves, c'est allé jusqu'à l'infarctus. Et il avait vécu des choses tellement terribles que c'était impossible pour lui d'aller se connecter à ses émotions, même s'il comprenait tout et il était d'accord, il savait bien qu'il fallait qu'il aille pleurer, mais il n'y arrivait pas. Et un jour, je l'ai envoyé voir un réflexologue avec qui je travaille, qui en une séance, il m'a appelé d'ailleurs le réflexologue en me disant, Anne-Catherine, votre patient, je lui ai reconnecté son cerveau droit. Et en fait, à partir de cette séance-là, le monsieur a retrouvé le contact avec toutes ses mémoires et a pu commencer un vrai travail de guérison. Et ça a été magnifique, c'était bouleversant. Hein, et donc l'EFT, je ne connais pas plus que ça, mais je sais que l'EFT agit à certains points, va stimuler certains points, va stimuler certains méridiens, et donc va remettre en action des forces, des énergies qui permettent un auto-nettoyage, une digestion, si on peut dire, des émotions négatives enkystées.
Oui, comme aussi que j'en avais parlé de l'EMDR aussi qui est utilisé,
Tout à fait.
qui a de très bons résultats aussi. Ça, par contre, à la différence de l'EFT, pour les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas écouté l'émission, hein, que je vous conseille, que vous pouvez trouver sur le site de radiotherazen.net, l'EFT, c'est quelque chose qui peut se pratiquer tout seul, tandis que l'EMDR, il faut forcément un praticien formé à cette méthode-là.
Tout à fait.
Voilà. Ça après, je ne sais pas si les psychothérapeutes peuvent faire de l'EMDR.
Alors, s'ils sont formés pour ça, oui. Hein,
D'accord.
il y a des psychothérapeutes formés à l'EMDR. Il y a aussi, bon, il y a aussi des praticiens EMDR, je crois, qui ne sont pas psychothérapeutes. Alors, ils font certainement plein de choses intéressantes, mais l'EMDR, comme toutes ces techniques qui vont aller travailler des choses en profondeur dans le corps, moi, je pense quand même que si la personne a vraiment une formation psy, elle sera mieux placée pour pouvoir accompagner le patient. Parce que parfois, dans des processus corporels, moi, je partage mon cabinet avec des ostéos, par exemple, qui ont fait un grand travail sur eux et qui sont vraiment capables d'accompagner leur patient dans quelque chose de très émotionnel. Parce que quand on touche le corps, il y a parfois des choses qui remontent. Hein, et le thérapeute, il a intérêt à être formé à ça. Sinon, il peut faire des gros dégâts aussi. Enfin, ça, c'est mon avis.
Oui, bah c'est souvent par exemple quand il y a des zones de tension, par exemple les gens qui ont très souvent des douleurs au niveau des épaules comme ça, c'est parce qu'ils portent beaucoup trop de choses sur
Absolument.
eux qui les concernent pas. Hein. C'est souvent des fois les problèmes de un tel et de un tel et de un tel, alors que quelque part, pour vraiment être en paix, faut entre guillemets s'en foutre. C'est vrai que c'est un peu un mot énorme, mais quelque part, on peut pas supporter le poids de tout le monde sur nos épaules, quoi.
Je crois qu'il faut reconnaître nos limites, il faut sentir ce qu'il est utile de porter ou pas, hein, parce qu'on peut être très aidant pour les autres sans porter leur malheur. Après, c'est une question de positionnement juste.
Tout à fait. Donc sinon, donc on avait donc parlé d'une certaine procédure pour le pardon. Comment intervient en fait la guérison et est-ce qu'il y a une période où c'est très aléatoire en termes de guérison, ça peut être des fois très rapide ou ça peut durer, je sais pas, plusieurs années?
Ben ça peut durer, des fois il y a des choses qui peuvent durer 30 ans, bien sûr, mais je crois que là encore, tout dépend de ce qu'il y a à pardonner, du degré de conscience qu'on en a, du moment où ça remonte, enfin de la date à laquelle c'est arrivé. Chacun est différent. Je pense qu'il y a des étapes, hein, c'est le même genre d'étape que pour le deuil, hein. Il y a d'abord, alors pour le deuil, on parle de sidération, de colère, de négociation, pardon, de colère, ensuite de tristesse et ensuite d'acceptation. C'est-à-dire que pour aller pardonner à quelqu'un, il faut avoir, comme je le disais tout à l'heure, pris conscience, identifié, contacté la douleur, peut-être l'avoir un peu comprise, qu'est-ce qui s'est passé aussi. On peut pas pardonner à quelqu'un si on comprend pas du tout pourquoi il a agi comme ça. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui ressort. Moi, j'entends tellement de gens me demander, mais pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Et c'est terrible parce que la plupart du temps, on peut pas répondre à cette question. Mais on a besoin pourtant de trouver une réponse. C'est comme si ça nous permettait de retrouver un peu de notre pouvoir. Comme si ça nous donnait l'illusion, même si on n'a pas pu éviter la blessure, au moins on l'a comprise, donc on a quand même un pouvoir dessus. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que au moins ça peut permettre à l'épreuve de se transformer en expérience, en leçon. Donc voilà toutes ces étapes. Et puis après, il y a le choix, en effet. Est-ce que j'accepte de laisser partir cette blessure? Est-ce que je m'y accroche encore? Est-ce que comment va être ma vie après? Hein, quelqu'un qui a vécu, je sais pas, dont un membre de la famille a été assassiné, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie après? Il y a certaines blessures qui nous laissent pas intactes vraiment, c'est-à-dire qu'elles vont déterminer notre destin. Elles vont faire de nous quelqu'un d'autre. Hein, elles sont comme un accident de vie, un accident de chemin qui va nous propulser autre part que ce qui était prévu. Et le pardon est une étape de ce chemin. Mais il y a un avant et un après.
Oui, bah oui, de toute façon, il faut déjà commencer le, on va dire, le chemin justement pour sur la guérison. Et le plus dur, c'est déjà d'accepter. C'est vrai que souvent, on a besoin d'avoir les réponses. Pourquoi l'autre a fait ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que c'est vrai que quelque part, si on sait la réponse, bah ça nous aide. Alors des fois, on peut l'avoir cette réponse, mais la plupart du temps, on l'aura très certainement jamais.
Oui, et puis c'est de toute façon pas avec notre tête qu'on va pouvoir guérir, hein, parce que la blessure, c'est pas dans notre raisonnement qu'elle est inscrite, c'est vraiment dans nos cellules, c'est dans notre corps, c'est dans nos mémoires, dans nos émotions, hein, donc c'est ça qu'il faut recontacter. Sinon, on reste pollué, c'est comme s'il y avait encore un gros caillou à l'intérieur de nous qui bloque un chemin, qui bloque un circuit énergétique. Et vous pouvez le voir, le comprendre, écrire une thèse dessus, il est là, il faut l'enlever, il faut le dissoudre. Et souvent, la dissolution, ça passe par les larmes.
Oui, bah, quelque part, c'est une, comment dire, une libération par le, on va dire, par l'eau. C'est vrai que Maria-Lisa l'expliquait justement avec le EFT, elle disait que quand vous le faites, surtout buvez beaucoup d'eau, parce
Bien sûr.
que justement, bah, on est composé quand même de 70% d'eau, ce qui est quand même déjà important. Et justement, on sait par les travaux de Masaru Emoto que l'eau a une mémoire.
Absolument.
Et donc ces émotions-là sont ancrées dans l'eau qui est dans notre corps. Et justement, qu'est-ce qu'elles font au bout d'un moment? Bah, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et puis bon, bah, après, comme avait expliqué un petit peu Damien, je crois qu'il expliquera aussi dans d'autres émissions sur la santé, sur le fonctionnement en fait de pourquoi un cancer se développe. C'est quelque part, les informations ne sont plus là et qu'elles sont erronées. Et du coup, bah, ça débloque des maladies parce que c'est le corps qui dit, voilà, j'ai un souci. Voilà, par exemple, quand ça se fait au niveau du foie, bah, quelque part, c'est parce que c'est quelqu'un qui a trop, comme vous disiez tout à l'heure, trop de colère intériorisée qui n'est pas sortie. Mais là, c'est le corps qui le dit, sauf que là, il a fallu qu'il le dise physiquement. Donc là, c'est un peu trop tard.
C'est pour ça que le nettoyage énergétique, le nettoyage physique est important. Moi, j'ai vu beaucoup de patients. C'est pour ça que j'ai choisi de m'entourer de professionnels qui travaillent sur le corps. J'ai vu des patients qui étaient bloqués à un moment donné de leur thérapie parce qu'il y avait des mémoires qui lâchaient pas. Et il suffisait qu'ils aillent faire une séance bien ciblée sur quelque chose où on travaillait sur leur corps pour dénouer, hein, comme ce caillou dont je parlais tout à l'heure. On prend le caillou, on l'enlève. Donc ça permet que l'énergie recircule.
Oui, bah oui, bah c'est vrai que quelque part, c'est, on va dire, l'énergie et le corps sont liés, hein.
Absolument. Bah, l'énergie est dans le corps, tout simplement.
Oui, voilà, c'est pas l'amour est dans le pré. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est quelque part le pardon, ça évite justement de développer une maladie malheureusement mortelle, on va dire.
Bah, le pardon, ça nous libère de toute une rumination envers quelque chose. Ça libère notre esprit, en fait. Hein, parce que tant qu'on ressasse. Je ne parle même pas de ceux qui élaborent des choses pour essayer de se venger de quelque chose, mais tant qu'on ressasse et qu'on est malheureux, qu'on n'a pas accepté une situation et on est en lutte contre la vie, mais on n'est pas plus fort que la vie, c'est elle qui est plus forte que nous. C'est perdu d'avance de lutter contre la vie.
Oui, ben c'est un peu, comment dire, nager à contre-courant.
Absolument. Oui.
Donc justement sur, on va dire pour terminer l'émission, là, les quelques minutes qui restent. Donc en quelques mots, on va dire des mots, on va dire en résumé sur le pardon, les manières d'y faire, hein, pour accéder au pardon. Les techniques aussi qui peuvent être complémentaires, comme on avait dit tout à l'heure, le EFT et le MDR. Et voilà, en fait, c'est faire on va dire un petit condensé en fait sur les 5 dernières minutes qui restent pour que voilà que ça s'ancre bien, parce que c'est vrai que comme je disais, la méthode Coué, quelque part, on peut parler, mais si on répète souvent les choses, c'est comme ça que ça percute le plus souvent.
Alors, je vais pas parler de technique en particulier, Cédric, parce que toutes les techniques, si elles sont faites, si elles sont utilisées avec la bonne intention, peuvent nous amener au pardon, hein. Je crois que c'est vraiment une question d'intention. Pour moi, le terme de pardon est indissociable, pardon, de la réconciliation. Pardonner à quelqu'un ou pardonner à soi-même, c'est se réconcilier avec une partie de soi, une partie de sa vie. C'est donc être dans une démarche de paix. Et paix ne veut pas dire sauter au cou de la personne qui vous a fait du mal et décider que vous allez devenir des grands potes, hein. On peut pardonner à quelqu'un et ne plus jamais avoir envie de le voir. Mais simplement, on se sera libéré, on aura libéré notre paysage intérieur d'une histoire douloureuse, d'une souffrance, d'un ressentiment, et on va pouvoir donc accueillir des nouvelles choses dans la vie. Voilà. Puisqu'il nous reste très peu de temps, je voudrais aussi parler de quelque chose qui va probablement intéresser nos auditeurs. Il y a quelqu'un de formidable qui est un auteur de livres de spiritualité et de développement personnel qui s'appelle Olivier Clerc, qui a traduit les 4 accords Toltèques. Je pense que vous avez entendu parler des 4 accords
Oui,
Toltèques,
de Don Miguel.
qui a écrit, transmis par Don Miguel Ruiz, l'auteur des accords Toltèques, un livre. Incontournable à mon avis, qui s'appelle Le don du pardon. Et suite, qui est un livre très intéressant, qui donne vraiment une technique. Moi, dans mon livre Libérez-vous par le pardon, j'ai parlé vraiment de retrouver l'amour envers soi-même, de guérir, de bienveillance, etc., de quelque chose de peut-être de plus psy, mais de pas très technique. Alors que ce livre-là donne vraiment une trame très intéressante et très accessible pour se pardonner. Et Olivier Clerc, avec son épouse Annabelle, organise à la Toussaint prochaine, ça a eu lieu à la Toussaint dernière, et il y a aussi 2 ans, un événement absolument merveilleux qui s'appelle les Journées du Pardon. Voilà, je vous invite à aller voir sur internet www.lesjournéesdupardon, sur la page Facebook. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Sachez simplement qu'il y aura pendant ces quelques jours des intervenants venus du monde entier, dont certains ont des choses à nous dire qui sont extrêmement poignantes et incontournables sur ce thème du pardon, parce qu'ils l'ont vécu dans leur vie, dans leur chair. Il y aura des professionnels de la santé mentale, psychologique, etc., qui chacun partageront leur expérience, leur connaissance par rapport au pardon. L'année dernière, nous étions 200. J'ai été intervenue avec une conférence et des ateliers, et je vous proposerai la même chose aussi cette fois-ci, avec en particulier un travail sur la question du pardon à soi-même pour se réconcilier avec soi. Voilà, c'est un petit peu une illustration pratique de ce que le pardon peut faire de mieux dans notre monde. L'année dernière, nous avions à ces Journées du Pardon une femme exceptionnelle, Jean Faury, qui a réussi à créer une fondation en Afrique du Sud. Elle est donc sud-africaine blanche, et sa fille a été tuée dans un attentat qui a été commandité par un Africain du Sud, noir, et elle a réussi à créer avec cet homme une fondation pour la réconciliation des Noirs et des Blancs après l'apartheid. Il y avait aussi un couple qui n'est pas couple à la ville, mais qui sont arrivés ensemble, une femme israélienne et un homme palestinien. Voilà. Donc c'était évidemment des témoignages extrêmement bouleversants et qui nous ont fait beaucoup réfléchir sur jusqu'où le pardon peut nous amener pour contribuer à transformer ce monde, pour contribuer à transformer le rapport que nous avons à nous-mêmes et surtout choisir la paix plutôt que la guerre.
Oui,
Voilà,
parce
je
que
voulais
oui.
finir là-dessus.
Oui, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la vengeance, de toute façon, n'amènera à rien de bon, parce que quelque part, on restera sur des énergies, on continuera à nourrir cette chose-là, et en fait, on s'en sortira jamais. Et donc, le pardon n'arrivera pas, malheureusement.
Je crois que c'est le Bouddha qui disait, j'ai plus la phrase exacte, mais qui disait, rester en colère, c'est comme tenir un charbon ardent entre ses mains, c'est vous qui vous brûlez, c'est vraiment bête, quoi. C'est vous qui vous faites du mal, parce que l'autre ne sait peut-être même pas que vous lui en voulez encore, et l'autre peut-être qu'il fait sa vie, il sait même pas qu'il vous a fait du mal. Hein, donc la première personne que nous libérons en décidant de pardonner, c'est nous-mêmes.
Et oui, c'est le plus important, hein. Le pardon, c'est avant tout soi-même. C'est se pardonner à soi-même pour se libérer par la suite. Parce que quelque part, celui qui va porter la colère, la haine ou peu importe les sentiments négatifs, c'est pas la personne qui nous aura blessés, c'est nous-mêmes qui allons la porter.
Et puis on se rend compte qu'en se pardonnant soi-même, on passe immanquablement par le fait de reconnaître aussi nos erreurs. Et quelqu'un qui fait vraiment preuve d'humilité, qui est capable de se dire avec tristesse, parce que quelqu'un de normalement bon, si on peut dire, n'aime pas faire du mal aux autres. Et faire cette démarche de réaliser que nous-mêmes aussi, on a pu faire du mal aux autres et sentir les conséquences que ça a pu avoir et décider de se pardonner, c'est aussi un vaccin formidable qui va nous empêcher de recommencer. C'est-à-dire que le réel pardon, que ce soit à soi ou à l'autre, s'il est vraiment intégré, c'est une invitation et c'est plus qu'une invitation, c'est une aide pour devenir meilleur.
D'accord. Voilà. Alors on va terminer cette émission justement sur ces notes positives. Donc merci justement pour la toute première de cette émission TerraZen de psychologie qui, je rappelle, sera donc mensuelle, hein, donc tous les premiers mardis du mois. Voilà. Donc la prochaine sera donc au mois de juin. Voilà, c'est ça que je me trompe pas parce qu'entre les mois là, je suis un peu en train de placer des trucs, je suis un peu à droite à gauche. Et vous pouvez aussi poser vos questions pour la prochaine émission. Donc que je retrouve le nom. Voilà, c'est ça. Terrazen Psychologie, donc tout attaché, @outlook.fr. Voilà, si vous avez des questions pour la prochaine émission. Donc merci Anne-Catherine justement pour cette émission
Merci
sur le pardon,
Cédric
qui
et
était très
merci.
intéressante et qui j'espère qui a intéressé beaucoup de monde et appris de nouvelles choses. Bon, j'ai eu des petits retours en live, donc ça a intéressé beaucoup de personnes déjà. Donc, ce qui est plutôt bien. Et il faut savoir que vous retrouverez donc cette émission ainsi que les suivantes en podcast. Voilà.
Très bien, super.
Voilà, donc Anne-Catherine, je vous dis donc dans un mois hein, pour la prochaine émission de TerraZen Psychologie.
Bonne soirée à tous et merci pour votre attention. Au
Merci.
revoir.
Allez, au revoir. Voilà, donc on va se quitter sur cette fin-là, donc pour cette toute première émission, hein, comme je vous le disais. Alors, pour rappel, on a mis donc en fait un système de radio de 24 heures, 24 sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site radionomie.com. Il suffira juste de taper le mot-clé Radio TerraZen. Donc, on va dire, on passe dedans de la musique pour l'instant. On créera petit à petit des playlists avec notamment une émission qui va s'appeler donc TerraZen Mag. Dedans, ce seront donc des interviews qui seront faites en micro-trottoir ou des interviews que j'aurai passées à distance par téléphone avec des personnes. Donc, notamment la semaine dernière avec le groupe Chantium Trio, que vous retrouverez justement sur cette radio en 24 heures, qui sera donc continue. Donc, on a vraiment besoin de vous pour cette radio-là, qui est donc gratuite, hein, qui ne vous coûte rien du tout. Qui en plus vous permet de pouvoir écouter de la musique hein, contemporaine, un peu plus tranquille, et découvrir le groupe Chantium Trio. Et on demande vraiment d'avoir de l'écoute parce qu'en fait, pour qu'on puisse continuer à utiliser ce serveur, il nous demande d'avoir un certain quota d'auditeurs. Donc on compte vraiment sur vous pour vous faire tourner l'information. Vous retrouverez donc cette adresse sur la page de Radio TerraZen ou alors depuis le site www.radioterrazen.net. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on compte sur vous pour maintenir ce projet de radio en continu. Et vous retrouverez toujours, de toute façon, les informations sur le site ou sur la page Facebook, les podcasts aussi sur le site. Et pour les lives, par contre, on est en train de voir, je vous le dirai ça un peu plus tard, je pense qu'on fera deux parties. Une partie où la radio 24-24 continuera. Et ce player-là servira uniquement pour les lives ou peut-être faire les deux. Enfin, en tout cas, restez connectés sur la page de Radio TerraZen pour être tenu au courant. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à jeudi pour la libre antenne pour venir parler de divers sujets directement avec nous, soit par téléphone ou par messagerie. Allez, passez une très très bonne soirée et donc à jeudi. Allez, ciao ciao.